Paola Scarpini enseigne dans deux universités, Sheffield et York. Elle a soutenu sa thèse en 2013 sur l'hypobéton. Elle a fait deux masters en langue et littérature médiévale. Elle a commencé, donc elle poursuit sur sa lancée en s'intéressant à la réécriture comico-burlesque au Moyen-Âge et au bilinguisme en Angleterre au XIIe et XIIIe siècle. Et par ailleurs, elle est polyvalente, hein, Paola, parce que par ailleurs, elle s'intéresse de près aux humanités numériques et aux études en codicologie. Voilà. Donc, je vais lui céder la parole.
Bonjour à tout le monde. Merci. Alors, sur la lancée de Gérald du Pays de Galles, Wales, je vais parler d'un auteur anglo-normand qui a vécu à la même période, Hugues Rotland, qui n'a pas écrit en latin, mais en anglo-normand. Et je retrouve pas mal de correspondances avec Gérald de Wales, notamment l'autocitation. Il s'autocite énormément, Hugues Rotland, il a un ego incroyable. Et donc je pense décidément que ça doit être une sorte de feature de ces auteurs ayant vécu au XIIe siècle en Angleterre. Donc, lire Hypomédon de Hugues Rotland signifie faire face à un nombre important de questions. En analysant ce poème, il est presque naturel de s'interroger sur les liens qui unissent ce poème anglo-normand de la fin du XIIe siècle avec le roman antique auquel il fait référence. Je suis presque sûre que personne d'entre vous ne connaît l'histoire d'Hypomédon, donc je vais faire un très bref résumé de l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Hypomédon, qui n'est pas encore chevalier et qui part à la cour de la fière pucelle duchesse de Calabre. Hypomédon est le fils du roi d'Apulie. Donc on est en Italie du Sud. Il a entendu dire que la fière pucelle est la plus belle parmi toutes les dames, bien entendu la plus belle parmi toutes les dames du monde, enfin de la région, et donc il veut la connaître. Mais une fois là-bas, donc en Calabre, à sa cour, Hypomédon néglige les entraînements guerriers et il est vite pris pour un lâche. Chassé par la fière, Hypomédon se rend à la cour du roi de Sicile et, avec une ruse, il devient le dru de la reine, c'est-à-dire son valet personnel. Toutefois, même lors de son séjour à la cour sicilienne, Hypomédon ne fait rien pour montrer sa valeur et il devient vite la risée des gens de la cour. Un tournoi de 3 jours est organisé pour trouver un mari à la fière. Et Hypomédon décide d'y participer à l'incognito. Oui, parce qu'entre-temps, il est tombé follement amoureux d'elle. Feignant de partir à la chasse chaque matin, il se rend au tournoi. Chaque jour avec une armure différente, pour que personne ne puisse l'identifier. Il gagne à chaque fois, bien entendu. Mais à la fin du tournoi, bien qu'il ait révélé son identité, il part sans réclamer son dû, c'est-à-dire la main de la fière, laissant la fière en plein désarroi. Et ne fait ce qu'il dit, c'est que de toute façon, elle-même, elle va m'attendre. Voilà. Je suis le meilleur, je suis le plus fort, elle ne pourra aimer personne d'autre. Il décide de revenir seulement lorsqu'il apprend que la fière doit être sauvée d'un hideux prétendant, Léonin. Dans ce cas aussi, cependant, il cache sa véritable identité et affronte le combat déguisé. D'abord en fou, et ensuite avec la même armure de Léonin, de sorte que la fière ne puisse pas reconnaître le vainqueur. En effet, elle est désespérée, elle croit que c'est Léonin qui gagnait. Bon. Tout se termine bien quand Hypomédon, lors d'un affrontement avec le neveu du roi Ménéagre, le roi de Sicile, donc le neveu c'est Capanémus, est reconnu comme le demi-frère de celui-ci. Hypomédon alors retrouve son demi-frère et accepte, bien gré, mal gré, en effet elle est vraiment forcée, hein, de se marier avec la fière. On le bloque, on lui dit, bon, t'es Hypomédon, ben voilà, maintenant tu te maries. Donc la critique souligne le fait que le roman de Thèbes est un des hypotextes majeurs d'Hypomédon. Et si la présence du combat entre frères à la fin du texte et la multitude de personnages portant le même nom que ceux du roman de Thèbes donne l'illusion qu'Hypomédon est forgé sur ce dernier, En réalité, c'est plutôt son absence et non sa présence qui bâtit l'histoire. Malgré une certaine ressemblance sciemment entretenue entre Hippomédon et le roman de Thèbes, les différences sont énormes. Bien que la stratégie narrative utilisée par l'auteur oblige le lecteur à ne jamais oublier la présence du roman de Thèbes, ce dernier brille par son absence. L'illusion que les deux textes sont liés par une continuité thématique est donnée surtout par les anthroponymes, repris des romans antiques, notamment le roman de Thèbes et le roman de Troie. Ude Rotland emprunte 15 de ses personnages au premier roman et 5 au deuxième. Le terme « emprunté » doit s'entendre au sens large, car il ne fait qu'utiliser les noms des personnages de romans antiques et non leur valeur sémantique, c'est-à-dire le monde référentiel que chaque nom porte avec lui. La connotation intertextuelle liée au nom propre est d'habitude très forte, d'autant plus si les aventures des personnages sont largement connues. Il suffit d'évoquer Énée pour penser à l'Énéide, Tristan pour s'imaginer ses aventures avec Iseut, Oedipe Jocaste pour se remémorer la tragédie thébaine. Mais pour mieux comprendre le travail de l'auteur, il nous faut donner quelques notions théoriques d'abord, malheureusement. Donc on va passer un peu à la théorie. L'anthroponymie fictive est un sujet largement étudié et ses implications sont fascinantes, non seulement à cause de leur valeur symbolique, mais aussi pour les liens que l'anthroponyme noue avec le texte qu'il évoque. Rappelons que le nom propre est le moyen de référence par excellence, car il désigne un particulier sans le décrire ni le classifier, et c'est dans cet emploi que le nom propre a été appelé par plusieurs linguistes désignateur direct et rigide. Et là, je vais citer Kerstin Johnson et son travail sur le nom propre. Le nom propre est un désignateur direct parce qu'il renvoie au particulier directement, sans l'intermédiaire d'un sens lexical codifié. Il est aussi un désignateur rigide parce qu'il désigne le même particulier dans tout le monde possible. Ou, si l'on préfère la formule de Benveniste, ce qu'on entend ordinairement par nom propre est une marque conventionnelle d'identification sociale telle qu'elle puisse désigner constamment et de manière unique un individu unique. Fin de citation. Par ailleurs, un anthroponyme satisfait une triple fonction. Identitaire, car il affirme qu'il existe un individu. Particulière, car l'individu dont il prédique l'existence est caractérisé par un ensemble de traits spécifiques qui le rendent unique. Et enfin, appellative, car cet individu peut être identifié en étant dénommé. Bien qu'en répondant aux trois critères qu'on vient d'énoncer, les anthroponymes fictifs tirés d'histoires célèbres, il suffit de penser à Aeneas, Hector, Achille, ou pour Hippomédon, Capaneus, Jason, Ismène, ont surtout une fonction référentielle, c'est-à-dire que leur rôle principal est celui de construire un objet de repère narratif et d'apporter un nouveau référent dans le récit. Dans ce cas précis, l'anthroponyme fictif fait appel à un arrière-plan commun de connaissances, partagé entre l'auteur et son public, et sa présence dans le récit suffit pour évoquer l'univers narratif auquel il se rattache. La connotation attachée aux anthroponymes fictifs par la tradition, connue par le lecteur, exploitée par l'auteur, joue donc un rôle fondamental. Elle fait appel à la réception de l'œuvre chez le lecteur et surtout à l'acte interprétatif de celui-ci. On vient de le voir avec le travail de Madame... De Madame Monnier. Dans notre cas particulier, quand nous affirmons que l'anthroponymie fictive fait appel à un arrière-plan commun de connaissances, nous nous référons à ce bagage culturel sur lequel était bâtie la tradition littéraire du XIIe siècle, et que toute personne, connaissant les classiques et les récits les plus célèbres de l'époque, avait en soi. Parfois, les auteurs accompagne le nom personnel d'une série d'éléments descriptifs qui se révèlent superflus la plupart du temps, car la majorité des anthroponymes fictifs sont transparents, monoréférentiels, intraduisibles et sans synonymes. C'est-à-dire, ils sont des désignateurs rigides. Cela signifie que chaque anthroponyme fictif est propre à un personnage ayant une histoire bien définie, intégrée dans un récit largement connu par les interlocuteurs et dont la renommée permet à l'auteur de ne pas expliciter toutes les informations. Si un auteur nomme un de ses personnages Ulysse ou Énée, il n'a pas besoin de préciser sur quelle tradition il s'appuie, puisqu'ils font partie d'un patrimoine culturel propre à plusieurs cultures. C'est en effet cet arrière-plan de connaissances qui permet au public une identification sans ambiguïté au personnage mentionné, une fois son nom évoqué. Donc, on peut affirmer que le nom propre acquiert un sens au contact d'un référent, ce qui revient à soutenir l'idée jacobsienne que, je cite, The general meaning of a proper name cannot be defined without reference to the code. Fin de citation. Jacobson précise en ajoutant, je cite encore, In the code English, Jerry means a person named Jerry. The circularity is obvious. The name means anyone to whom the name is assigned. Fin de citation. Nous voyons aussi dans le domaine du métalangage, puisque Jacobson, dans sa définition de nom propre, fait appel à une expression métalinguistique, ce qui signifie que le nom propre ne renvoie pas un objet du monde, mais un objet de la langue, spécifiquement un objet du code. Effectivement, les anthroponymes fictifs sont rarement porteurs d'une valeur sémantique intrinsèque. Les quelques rares cas qui répondent au dictum nomen omen ne seront pas analysés aujourd'hui dans notre étude. Mais je voudrais rappeler le nom de l'héroïne d'Hippomédon. Le nom de l'héroïne, c'est La Fière. Et aussi le tout méchant à la fin qui s'appelle Léonin. Souvent, par contre, les anthroponymes fictifs comportent des significations autoréflexives, c'est-à-dire qui renvoient à une référence stable et unique, liée à un personnage littéraire identifié avec un anthroponyme qui lui est propre. Dans notre cas spécifique, cependant, nous n'avons pas affaire à des noms propres quelconques. La plupart des personnages présents dans Hippomédon n'ont pas de noms propres originaux, inventés par l'auteur, mais des noms chargés d'une fonction référentielle, pour utiliser le terme de Jacobson, qui est très importante. Cet aspect autoréflexif englobe le principe d'économie sémiotique, qui est aussi une caractéristique anthroponymique fondamentale. Donc, l'anthroponyme fictif, parce qu'il est un marqueur distinctif d'un référent unique et parce qu'il est aussi un marqueur distinctif d'un ensemble de caractéristiques liées à ce nom propre, permet à l'auteur, une fois qu'il a établi l'arrière-plan culturel de ses lecteurs, de l'employer sans devoir ajouter d'autres informations. Ainsi, selon les degrés de notoriété de l'anthroponyme, l'auteur peut utiliser le nom propre pour évoquer toutes ses caractéristiques ou faire l'inverse, décrire des traits uniques à un personnage sans le nommer et laisser ainsi agir sa fonction référentielle. Ces considérations sont essentielles pour comprendre que le choix anthroponymique effectué par Hugh de Rutland est révélateur, non seulement de son héritage narratif, mais aussi de sa liberté de composition face au récit modèle. Jouant sur le syncrétisme et le mélange des traditions narratives, Hippomédon, tout en suivant les schémas classiques de la réécriture romanesque, il les modifie pour créer un effet de dépaysement auprès de ses lecteurs. Si l'on observe les textes antécédents ou contemporains à Hippomédon, nous pouvons avancer quelques considérations à propos de l'anthroponymie fictive et de son emploi dans le poème chevaleresque. Le choix que fait l'auteur de nommer certains personnages plutôt que d'autres place aussitôt le lecteur dans un univers référentiel précis, dont les racines se trouvent dans la tradition littéraire orale ou écrite, servant de support à ces récits. Daniel James Raoul, parlant de la fonction du nom dans le roman des Chrétiens de Troyes, résume en quelques lignes ce que nous venons d'expliquer de façon plus détaillée. Je vais lire simplement une partie de la citation. Au plan stylistique, ce principe de récurrence de personnages joue au moins triplement. Comme principe économique, puisque l'écrivain se dispense de précisions descriptives, censées connues. Comme principe pragmatique, puisque l'écrivain force la complicité de son public. Et comme principe de structuration forte, puisque les repères donnés fonctionnent comme balises dans l'histoire. C'est cet aspect de complicité avec le lecteur que je voudrais souligner, car elle implique un savoir de base, un tissu de référence culturelle auquel le nom de Lancelot et Arthur renvoie sans qu'il soit nécessaire de la part de l'auteur d'en préciser davantage. Par ailleurs, nous avons aussi évoqué le fait que la fonction référentielle liée à l'anthroponymie fonctionne aussi de façon inverse. L'identification singularisante peut avoir un but énonciatif quand l'auteur sélectionne certaines caractéristiques associées aux référents de l'anthroponyme et les utilise dans une citation narrative spécifique. C'est le cas par exemple du cheveu d'or qu'on trouve dans Cligès et qui rappelle l'histoire de Tristan et d'Isotte, sans en dire davantage. Il juste évoque le cheveu d'or. Précise toujours Daniel James Rawl, quand le nom propre d'un personnage intervient immédiatement, avant tout autre attribut, il est porteur d'une identification sous-déterminée qui force l'adhésion. Hugh de Rotland utilise la stratégie de l'identification singularisante pour élever son héros, Hippomédon, au même rang de ses personnages, dont la renommée est telle que leur nom suffit à ôter toute description explicite associée au référent de l'anthroponyme. Hippomédon se place lui aussi sous l'ombre d'une tradition, celle des romans antiques. Et il est fortement probable que Hugh de Rotland ait une ample connaissance des histoires liées aux mythes troyens et thébains, outre une grande maîtrise de l'Énée de Virgile. Aussitôt le prologue d'Hippomédon terminé, Hugh plonge le lecteur dans l'univers thébain en nommant son premier personnage Méléagre et son deuxième Capaneus, le neveu du roi. Donc vous avez Méléagre, un réactif de Cécilia Sir Jadis, quelques vers plus loin, mais son neveu Prusavate, que sooner après lui estate. Encore quelques vers, Boyer est fier de grand vertu, Capaneus appelé fut. Malgré les anthroponymes thébains, le lecteur comprend immédiatement que l'histoire ne peut pas être liée à la tragédie de fils d'Oedipe, puisque dans cette dernière, Capaneus n'était pas le neveu de Méléagre, et qui plus est, ils étaient ennemis. Ce procédé est adopté sur la totalité des personnages présents dans Hippomédon. Le référent est donc à la fois présent et absent, posé et immédiatement enlevé. Si on adopte la thèse qui affirme que les anthroponymes fictifs possèdent une valeur sémantique, alors Hugh de Rotland a procédé à un travail de désémantisation et ré-sémantisation de ces anthroponymes, dans le but très probable de dépayser ses lecteurs et d'enlever du prestige à sa source. Le dépaysement est encore plus fort parce que, outre cette désémantisation des anthroponymes, Hugh de Rotland débute son poème avec un renversement du topos des neveux. Selon ce topos, le neveu du roi est l'héros principal de l'histoire, ou un personnage principal doué d'une valeur sans précédent, comme c'est le cas de Roland, de Tristan, de Parthenopeu, de Gauvin aussi. Dans Hippomédon, le personnage présenté, Capaneus, est justement le neveu du roi de Sicile, et il a tous les attributs d'un héros romanesque. Le jeune homme est décrit sur 12 vers, présente toutes les qualités requises pour être un chevalier honorable, beauté, fierté, force, sagesse. Et il semble presque entraîner les lecteurs vers toute une série d'inférences, de déductions, quand le texte change brusquement. Même, il se fait battre, Capaneus, dans les tournois. Le choix de nommer le neveu du roi Capaneus, en outre, recèle en soi un rappel intertextuel qui mérite d'être analysé légèrement plus en détail. Penser que Hugh de Rotland a choisi le nom des personnages principaux au hasard serait ne pas tenir compte de tout le travail intertextuel qui bâtit le récit médiéval. Or, choisir de décrire le neveu du roi et de le nommer précisément Capaneus était très probablement un dessein précis de l'auteur qui voulait, encore une fois, nommer le roman de Thèbes sans le citer directement. La version courte du roman de Thèbes, les manuscrits B et C, présente une assez longue passage de 754 vers dans lequel Capaneus est l'heureux principal. Aimé Petit analyse avec minutie ce passage qu'il définit Capaneïde et déclare que ce passage trouve son correspondant dans le livre 10 de la Thébaïde. Qui plus est, l'épisode de la Capaneïde révèle un processus créatif typique de la composition médiévale, exactement comme nous avons une Amphiaraïde ayant comme protagoniste Amphiarus et une Hippomédonide avec Hippomédon. Ainsi, l'auteur nous présente une Capaneïde suivant de près le texte de la Thébaïde. Ces considérations nous laissent supposer que probablement Uderotland avait pu consulter la version courte du roman de Thèbes. D'autant plus que dans Hippomédon, le rôle de Capaneus n'est pas moindre, puisqu'il est le neveu du roi Méléagre et le demi-frère du héros. Si l'auteur a choisi de présenter Capaneus avant Hippomédon, ce n'est sûrement pas un hasard. Le couple roi-neveu, nous l'avons vu, était un topos très fort qui permettait à lui seul de pousser le lecteur à s'imaginer un résultat particulier dans l'histoire. Si à cet topos, nous ajoutons la renommée qui devait avoir le personnage de Capaneus à cause de son rôle dans le roman de Thèbes, et précisément dans la Capaneïde, il nous apparaît plus clair le jeu mystificateur de Uderotland, qui fonde le début de son histoire sous des prémices conventionnelles, en utilisant des motifs et un substrat culturel connu, pour les remettre en question aussitôt après, et marquer une rupture dans les termes de la communication entre auteur et lecteur. Ici, ce n'est pas un cas de non-dit, mais il s'agit plutôt de laisser supposer quelque chose pour ensuite aussitôt exprimer son contraire, ou de changer la norme pour créer un texte nouveau qui modèle les topoi à sa façon. Les choix d'anthroponymes célèbres, leur resémantisation subite, le bouleversement d'un topos fondamental de la littérature chevaleresque dans les 100 premiers vers du poème, nous poussent à affirmer que l'auteur se place, dès le début, à marge de la tradition et se réserve le droit d'exercer une liberté totale par rapport à ses sources et à ses modèles. Le lecteur est ainsi encouragé à rester vigilant face à un texte qui semble s'inventer au fur et à mesure que l'écriture se révèle. De fait, non seulement les anthroponymes ne sont plus ce qu'ils devraient représenter et les topoi littéraires ne sont plus respectés, mais de plus, l'auteur semble discréditer ses sources sans trop de pudeur. De façon pernicieuse, Uderotland renverse le continuum chronologique entre son œuvre et sa source, affirmant dans l'épilogue que l'histoire racontée dans la Thébaïde, en effet le roman de Thèbes, est la suite de celle qu'il vient de raconter. Par cette affirmation paradoxale, il met en question la certitude des sources et il crée une contradiction ironique par rapport à toute la tradition littéraire antérieure à Hippomédon. Donc il y a une perte progressive d'autorité progressive subie par la source, et à la lumière de ces considérations, de l'emprunt anthroponymique de Uderotland assume un rôle qui va au-delà de la fonction référentielle du nom propre. L'auteur ne cherche pas seulement à dépayser ses lecteurs en lui ôtant la stabilité d'un univers référentiel connu, mais par l'ironie qui se scelle derrière ce jeu parodique, il vise avant tout sa source et discrédite son autorité, instituée par une tradition littéraire qui remonte à Stas, selon les textes connus par Uderotland. Donc cette décision met en évidence le caractère ludique de son œuvre et surtout marque une distance critique par rapport à cet univers littéraire dans lequel Uderotland a forgé ses connaissances. Une preuve ultérieure de cette moquerie est le choix de faire combattre Hippomédon contre son demi-frère Capaneus à la fin du récit. Dans cette scène, l'intertextualité exploitée à des fins ironiques et très subtilement eut profit de l'ignorance du public face aux aventures qu'il est en train de lire pour présenter un combat dont personne n'y s'attend. Le narrateur présente le combat donc entre Hippomédon et Capaneus, en décrit chaque phase en construisant une parfaite scène de bataille et plonge le lecteur dans le doute vis-à-vis d'Hippomédon, qui, pour s'en sortir, serait peut-être forcé à tuer le neveu du roi. Le lecteur ne connaît pas le lien de parenté qui lie les deux chevaliers, et ce n'est qu'à la fin du combat, lorsque l'identité d'Hippomédon est révélée, que le public se rend compte qu'Hippomédon aurait pu tuer celui qui est son frère, en répétant les drames thébains. Gardé volontairement dans l'ignorance, le lecteur n'avait pas conscience de lire une réécriture du duel entre Théoque et Polybe. Et l'aspect ironique de cette scène ne ressort que grâce au contexte et au lien intertextuel qui subitement viennent à l'esprit. La révélation de l'identité d'Hippomédon et la découverte subite que Capaneïs est son demi-frère obligent le lecteur à relire l'histoire et à réinterpréter la scène du combat. En choisissant de nommer ces personnages d'après l'œuvre thébaine, Hugues de Rotland avait engagé un dialogue avec Thèbes en début de l'œuvre. Toutefois, là j'ai fait une liste de tous les personnages. Toutefois, Hugues a voulu aussitôt interrompre ce dialogue en ré-sémantisant chaque nom propre et en introduisant auprès de son lecteur l'idée que Thèbes n'était qu'un leurre. Malgré la perception erronée offerte par les anthroponymes, Hippomédon ne présente pas de référence textuelle directement liée à Thèbes. Le lecteur qui, après 9000 vers, est convaincu de ne plus trouver aucune trace de la tragédie thébaine, découvre avec stupeur qu'Hippomédon et Capaneus sont frères et qu'ils se sont battus l'un contre l'autre, frôlant le drame qui toucha Éthéocle et Polynice. C'est à ce moment que le public doit faire un travail de réévaluation, reprenant le texte depuis le début et relisant l'histoire à la lumière de nouvelles informations qu'il possède sur l'identité de Capaneus. Là, je vais couper un peu, sinon je vais plus terminer. Donc, il est évident qu'on est face à une réécriture qui porte à rire, ou du moins à sourire. Enfin, c'est une réécriture que ce n'est pas vraiment une réécriture de Thèbes. C'est un comique basé sur la révérence envers l'autoritas qui consolide la renommée de l'hypotexte, tout en permettant à Hugues de Rotland de prendre ses distances avec lui et d'ouvrir un dialogue différent avec le public, un dialogue qui est plus ludique, basé sur l'ambiguïté et sur un jeu de recul ironique. Pour comprendre l'absence et présence de Thèbes, on pourrait confronter ce texte avec celui qui suit, toujours de Hugues de Rotland, qui est Protésélaüs, son deuxième poème. Et on peut voir que dans Protésélaüs, les anthroponymes thébaines manquent presque complètement, alors que l'histoire thébaine est présente. Donc, on est vraiment face à un chiasme. Les deux œuvres se complètent l'une avec l'autre. Et là où les noms des personnages évoquent le roman de Thèbes, l'intrigue se présente comme dénouée de toute relation avec cette histoire. Et ça, c'est Hippomédon. Alors que le texte, dont la macrostructure évoque le roman de Thèbes dès les premiers vers, Protésélaüs, offre des anthroponymes, la plupart empruntés de Troie, mais aussi du roman d'Alexandre, Énéas et Hippomédon, ou des anthroponymes complètement inventés. L'absence-présence du roman de Thèbes se répète donc dans le deuxième roman de Hugues. Et l'histoire racontée, là, c'est une réécriture claire et précise. Pour conclure, dans Hippomédon, nous nous trouvons donc face à une utilisation extrêmement ambiguë de l'hypotexte et surtout de l'emprunt onomastique fait par Hugues de Rotland. Si l'ensemble des anthroponymes est le reflet des inspirations et des influences qui caractérisent ce texte, le choix de l'auteur ressemble davantage à un pillage qu'à un emprunt. La désacralisation de la source, qui atteint son paroxysme avec l'affirmation finale de cette histoire qui est ici faite et celle de Thèbes extraite, c'est double d'un ton moqueur et arrivérant qui finalement place le lecteur en milieu d'un jeu herméneutique très sophistiqué. Merci.
Merci beaucoup, Paola.
Désolée.
Ce tour très complet de l'anthroponymie. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses. Questions, remarques ? Alors, je... C'est, enfin, c'est, en, en écoutant...